Bon, plantons le décor. On a la tête en bas, sous l'eau glaciale d'un torrent, coincé dans une coque en plastique. Notre cerveau hurle de remonter à la surface pour chercher de l'air. Et en fait, céder à cet instinct, c'est exactement ce qui va empêcher toute survie.
Ouais, c'est le paradoxe total.
C'est fou ça. Aujourd'hui, notre deep dive plonge dans la réalité scientifique du canoë-kayak. Alors, on va oublier l'image de la petite balade estivale pépère, parce que les sources qu'on a épluchées révèlent un truc assez surprenant. Ce bateau, ben, c'est pas vraiment un bateau, en fait.
Ah non, pas du tout. C'est littéralement le prolongement du squelette et du système nerveux.
Une sorte d'exosquelette nautique, quoi.
Carrément. C'est ce qui rend cette discipline super unique, en fait. La coque, le corps et l'eau forment un système biomécanique vraiment indissociable. Dès qu'on comprend que l'embarcation agit comme une extension corporelle, bah, toute la perception du sport bascule. La manière dont le corps s'y ancre, ça dicte entièrement la propulsion sur l'eau.
Et parlons de cette propulsion, justement. Quiconque a déjà loué un kayak en vacances a forcément l'impression que c'est un sport de bras. On finit avec des courbatures aux épaules, en étant convaincu d'avoir ramé comme un forçat.
Un peu comme si on ratissait des feuilles en tirant l'eau vers soi.
Exactement. Mais nos documents montrent que c'est une erreur d'interprétation totale. L'analogie correcte, ce serait plutôt de planter un piolet dans la glace, on ancre la pagaie, et c'est le bateau tout entier qu'on tire pour dépasser ce point fixe.
C'est vraiment la clé de voûte de la technique, ça. Et cette mécanique, elle explique un détail d'équipement qui paraît complètement insensé au premier abord.
Le fait que la quasi-totalité des compétiteurs retirent carrément le dosseret de leur siège.
Voilà. Un siège confortable, bien ajusté comme un fauteuil, bah ça bloque la rotation du torse. Sans se dosser, le corps est contraint d'adopter une posture active et très verticale.
Ce qui permet la fameuse dissociation segmentaire, c'est ça?
Ouais, l'indépendance totale entre le haut et le bas du corps.
Attends, là je suis un peu perplexe. Si on dissocie le haut et le bas du corps, et que la force de propulsion ne vient pas des bras, d'où vient la puissance pour avancer? Enfin, pourquoi nos bras brûlent autant quand on débute?
Bah, les novices utilisent leurs bras simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne technique. En réalité, le haut du corps pivote uniquement pour transmettre l'énergie.
Ah, d'accord.
La véritable puissance, elle naît dans les jambes, par une contraction isométrique.
Une contraction isométrique, c'est-à-dire une tension extrême du muscle sans qu'il y ait de mouvement. Genre comme quand on repousse un mur de toutes ses forces.
C'est tout à fait ça. Les pieds poussent violemment sur les cale-pieds, ce qui verrouille le bassin dans l'habitacle.
Ok, je vois.
Cette tension invisible des jambes, elle transfère l'énergie de la rotation du tronc directement dans la structure rigide de la coque. Donc le bas du corps bouge pas du tout. Il fait corps avec le bateau pour transmettre la force.
Donc on est littéralement coincé et verrouillé sous tension maximale dans un espace super exigu. C'est génial pour avancer vite, mais bon, ça ressemble au pire cauchemar possible si le bateau se retourne dans un rapide.
Ah bah, c'est là que ça devient vital de maîtriser la suite.
Se retrouver scellé la tête en bas, ça amène à cette fameuse technique de l'esquimotage, le roll en anglais. Et là, la règle d'or défie toute logique de survie primaire. Il faut sortir la tête en dernier.
C'est un héritage direct des sociétés inuites. Pour eux, chavirer dans des eaux subarctiques, ça signifiait une mort immédiate.
Et c'est basé sur de la physique pure, n'est-ce pas ?
Complètement. La tête humaine est super lourde. Si sous l'effet de la panique, le cerveau ordonne de la sortir de l'eau en premier pour respirer, elle va agir comme un contrepoids dévastateur sur ce grand levier qu'est la colonne vertébrale.
Et ce contrepoids annule instantanément la mécanique salvatrice du coup de hanche, le fameux hip snap. Mais comment ce mouvement précis arrive à redresser le bateau contre la gravité concrètement ?
En fait, le coup de hanche ne sert pas du tout à pousser l'eau. Il consiste plutôt à tordre la colonne vertébrale d'un coup sec pour faire pivoter la coque sous le bassin.
Pendant que le haut du corps reste dans l'eau.
Ouais, pendant cette torsion, le haut du corps et la tête doivent rester collés à la surface de l'eau, bien à plat. Ça offre le moins de résistance possible et ça sert de point d'appui.
Sortir la tête, ça briserait cet appui horizontal alors.
Exactement. Et ça coule instantanément le bateau. La tête doit rester basculée vers l'épaule et elle n'émerge qu'à l'ultime fraction de seconde, vraiment tractée par le redressement de la coque.
C'est incroyable. La survie dépend donc de la capacité à ignorer un réflexe inné. La maîtrise absolue d'un environnement fluide exige d'éradiquer nos instincts terrestres primaires.
Il faut s'en remettre aveuglément aux lois de la physique, ouais.
Le corps doit vraiment accepter d'être une simple pièce mécanique dans le prolongement du bateau.
C'est un renoncement intellectuel totalement indispensable. accepter de ne pas chercher l'air tout de suite pour laisser la biomécanique opérer.
Et sachant que les Inuits maîtrisaient déjà cette biomécanique de survie d'une complexité folle bien avant l'avènement de l'hydrodynamique moderne, ça laisse vraiment songeur.
Ah ça c'est sûr, je suis bien d'accord.
On peut légitimement se demander quelles autres prouesses d'ingénierie physique les peuples anciens ont secrètement codifiées dans les gestes de leur quotidien et que la science redécouvre à peine aujourd'hui. Voilà qui donne une toute autre dimension à cette simple coque en plastique.